Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Christophe Marguet, à ma droite, batteur.
Bon. Monsieur Manu Kodjia, guitariste.
Mademoiselle Géraldine Laurent, saxophoniste.
En trio pour la sortie du disque Looking for Parker chez Bee Jazz.
En fait, on s'est retrouvé à l'initiative de Christophe pour faire une session chez lui, pour jouer tous les trois comme ça. Moi, j'avais jamais joué avec Géraldine,
et donc on. Et réciproquement.
Et moi non plus.
En fait, on ne se connaissait pas. Ouais.
Oui,
enfin,
en fait, voilà,
Manu,
ouais.
Christophe
et
ouais.
Moi, on se connaît bien depuis longtemps, mais.
Mais on ne connaissait pas Géraldine.
Voilà.
Et
donc, on s'est retrouvé à jouer, et puis petit à petit, on s'est retrouvé à jouer des morceaux de Charlie Parker, ou autour de Charlie Parker, ou des trucs un peu bebop comme ça. Et puis avant, on avait essayé d'autres choses qui ne fonctionnaient pas forcément très bien, et puis ça tout de suite, ça a pris plus de consistance. Donc on s'est dit qu'on allait continuer dans ce choix de répertoire.
Pour Charlie Parker, ça s'est fait un peu de façon collective. En fait, la première session, on a joué, donc il n'y avait pas de bassiste. On n'en avait pas appelé en même temps, donc c'est normal. Donc on s'est retrouvés guitare, batterie, saxophone. Et je pense que c'est parti de façon très spontanée sur un thème de Charlie Parker, un deuxième. Du coup, on s'est dit, tiens, voyons s'il n'y a pas un troisième thème ou... de Charlie Parker, ou en tout cas de cette période surtout, de cette période bebop qui nous est chère à tous.
Pour moi, Charlie Parker, c'est un punk, quoi. C'est un mec qui est allé vraiment, vraiment, vraiment au bout de quelque chose, et c'est ça qui fait qu'il est encore, qui restera sublime, quoi.
Du jazz moderne, pour moi, c'est un des... Enfin, c'est le, le fondateur du jazz moderne, en fait, en quelque sorte. Donc, Donc moi-même, si j'ai pas pratiqué du bebop, mon background il vient de là en partie, quoi.
Je crois que ce qui était chouette aussi, c'était son, encore une fois, son côté complètement sauvage, quoi, je crois, qui était très intéressant de reprendre. Alors c'est un peu abstrait de dire ça, mais repartir de cette espèce de sensation. Voilà. Et évidemment, Parce que dans ce disque, il y a aussi beaucoup de choses qui sont, comme on dit, c'est Looking for Parker, il y a des choses qui sont autour de Charlie Parker, des thèmes comme April in Paris, par exemple, bon, c'est un standard, mais que jouait souvent Charlie Parker. Donc là, on est dans une démarche beaucoup plus mélodique, beaucoup plus libre, quoi, que la musique même de Parker, qui est quand même très, très, très dense, quoi. Et puis il n'y a pas de bassiste aussi parce que chez moi c'est trop bas de plafond.
C'est vrai.
Donc on ne peut pas inviter de bassiste. Alors voilà, c'était déjà la condition. Non, puis le truc marrant c'est aussi de jouer du bebop sans basse, quoi. C'était ça qui était aussi un petit peu qui nous a interpellés quelque part. Il y avait forcément des choses à trouver. De la part de Manu, il est obligé de jouer un peu le rôle du bassiste, mais sans non plus remplacer le bassiste, parce que sinon, autant prendre un bassiste, ça ne veut rien dire dans ces cas-là. Et puis voilà, donc déjà, ça nous mettait dans une couleur qui était peut-être un petit peu originale, entre guillemets, quoi.
Enfin, moi, ça m'a appris par rapport aux morceaux, au répertoire donc de Charlie Parker ou des morceaux du bebop, notamment pour l'interprétation des thèmes, finalement, parce qu'on joue tous les thèmes. Enfin, on pourrait imaginer qu'on ne va pas jouer les thèmes précisément, alors qu'on les joue. Et moi, je sais qu'il a fallu que je bosse précisément quelques thèmes, parce que c'est vrai, quand il y a une basse, il y a une espèce d'appui qui fait qu'on sait qu'on peut éventuellement avoir cette base justement pour essayer de naviguer. Là, elle n'est pas là, donc je pense qu'on a chacun une espèce de chose un peu fragile finalement qui ressort et qui fait que, par rapport au répertoire en tout cas, essayer d'être dans les thèmes, du coup de les penser autrement et de les entendre autrement finalement aussi.
Le rôle de la guitare dans ce trio, enfin ouais, c'est pas de remplacer la basse, mais c'est de faire le pont entre ce qui pourrait être le rôle de la basse, le rôle du piano, d'essayer de faire un mélange entre tout ça. Donc après, il y a des choix à faire aussi, donc des fois je laisse de côté un rôle pour en occuper plus un autre. Mais ça se fait un petit peu à force de jouer, ou enfin même des fois parfois spontanément, quand on a les premières fois où on a joué ensemble, on a trouvé des façons de jouer, enfin de pallier cette absence.
Je crois que je suis pas très très loin non plus de tout ça. C'est-à-dire que ça reste quand même une batterie qui est très ancrée dans un rôle rythmique. Et puis évidemment, comme il n'y a pas de basse, il y a un peu plus d'espace dans le bas de l'orchestre, et du coup il y a peut-être plus de choses à faire avec la grosse caisse, plus de remplissage d'une façon générale, ce qui fait que c'est pas facile, je trouve, de jouer comme ça dans le trio, parce que déjà la musique de Charlie Parker souvent c'est sur des tempos très rapides, et ça va assez vite, et comme il n'y a pas de basse, on peut pas se reposer, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même, on est relativement sur un fil en tension, et c'est ça qui donne, je crois, un espèce de caractère un peu à vif de ce trio, quoi. Mais l'idée aussi, c'est de pas trop se poser de questions et de jouer de façon un petit peu instinctive, et de voir un petit peu en fonction des matières de son qui se passent, suivant ce que Manu est en train de faire, s'il est vraiment dans les graves, s'il est en train de faire un solo, etc. Et voilà, l'important, c'est d'avoir une sensation de quelque chose qui bouillonne et qui avance.
Format aussi, je pense que les formes justement sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus
oui, ça c'est très agréable,
beaucoup
ouais.
Plus on peut se permettre de beaucoup moins académique peut-être que ce qu'on ferait naturellement avec un quartet où il y aurait peut-être un solo de guitare, un solo de sax et tout ça, parce que là on peut se permettre d'être beaucoup plus flexible dans tout ça, enfin, ce qu'on pourrait faire aussi dans un quartet, mais qui est
mais,
moins
mais quand
évident
même, là, c'est vrai que c'est agréable parce que ça rebondit vraiment très très vite entre vous deux.
Oui, par nécessité, oui. Ouais, effectivement, du fait qu'il n'y ait pas de basse.
Comme il y a un truc qui n'est pas forcément toujours installé, on est obligé de recréer toujours des événements, quoi.
Ça, c'est pas facile, c'est vrai. Hein. C'est ce qui fait que c'est un trio sur le fil, quoi. Mm.
C'est sûr qu'on a essayé d'en faire quelque chose de spontané, en fait. Surtout, alors est-ce que la spontanéité fait la modernité, je ne sais pas, mais en tout cas... c'est surtout ça qui nous a un peu motivés, je pense.
Mais il y a une autre chose auquel tu dis que tu es attaché, et c'est intéressant, c'est le ternaire, c'est
le swing. Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a peut-être une touche un peu moderne dans ce qu'on fait, enfin, peut-être un peu actuelle, c'est une façon de voir les choses maintenant avec ce qu'on est, mais on garde ce balancement ternaire, cette danse ternaire, et parce que souvent quand même les relectures elles vont vers du, on détourne toujours vers du binaire, la musique jazz, c'est la façon de la rendre moderne, entre autres, il n'y a pas que ça, mais souvent ça passe par la moulinette du binaire. Et là, on était quand même assez attaché au fait que ça reste une musique ternaire.
Forcément, ça ne va pas sonner comme en 1945, quoi. Et puis de toute façon, enfin voilà, moi je suis peut-être celui qui est le moins pratiqué du bebop pur, quoi, je dirais. Mais je suis pas un musicien de bebop et tout ça, mais bon, je suis un musicien, et puis à la limite, le répertoire. Enfin, j'allais dire, c'est pas qu'il importe peu, mais c'est qu'après, il y a une musique, et puis on la malaxe à notre manière pour en faire ce qu'on est, nous, quoi. Après, bon, on y pense et tout ça, mais il y a quand même une part de spontanéité quand même importante là-dedans.
Souvenir de disques de Charlie Parker, notamment une version, alors ça c'est dans une compilation aussi, je crois, une version d'April in Paris avec orchestre, donc je ne sais plus quand ça a été enregistré, mais enfin je trouve ça magnifique, je trouve les sessions de Parker avec orchestre toujours magnifiques, entre autres toutes sessions, et j'adore les lives de Parker, parce qu'on a vraiment il n'y en a pas énormément, hein, je ne suis pas assez calée là-dessus, mais les quelques morceaux live sont toujours, je trouve, assez extraordinaires, dont un morceau justement où il y a plein de saxophonistes qui jouent I Got Rhythm, je crois, alors je ne sais plus quelle session c'est, mais on a toutes, je trouve, dans ce morceau qui dure 10 minutes à peu près, un peu toute la progression du jazz entre les années 30, 40, 50. Et c'est assez étonnant, il y a Coleman Hawkins, il y a Ben Webster, enfin, et le solo de Charlie Parker qui arrive, où là, moi, je trouve ça effectivement assez fabuleux. On entend tout à coup une espèce d'autres langages, une très grande liberté, beaucoup de silence, ce qui, je ne sais pas, mais par rapport à ses contemporains, sur ce même morceau, n'était pas le cas. Et c'est une espèce comme ça de choses très fraîches.
Ce qui me frappe surtout dans les séances en studio, bah c'est à cause du micro-sillon, quoi. Donc les morceaux étaient très courts, donc la concision du propos que Parker a est assez étonnante. Il paraît qu'il faisait beaucoup de prises et tout ça pour arriver au solo parfait, quoi. Mais c'est vrai que le peu de concerts live qui ont été publiés, du coup la musique se développe autrement et c'est aussi intéressant et c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs, parce que on verrait...
Il y en a un qui a été réédité là, il n'y a pas longtemps, là. Tu sais, en 45, un disque...
Il n'y en a pas beaucoup,
enfin,
à ma connaissance en tout cas. Et c'est vrai qu'à la limite, c'est parce qu'on a toujours l'image du solo très court, enfin des morceaux très courts et tout ça, mais, alors qu'en live ça se passait pas comme ça. Et c'est intéressant de voir le bebop, en fait, cette musique qui était en train de révolutionner un peu tout, sous cet aspect-là. Voilà. J'aurais bien aimé assister à un de ces concerts. Mais...
Jazz at Massey Hall. Ça, pour moi, ça a été un disque incroyable avec Dizzy, Bud Powell, Mingus et Max Roach. C'est un disque que j'ai écouté adolescent, quoi, 14-15 ans, et ça m'a vraiment complètement éclaté de sentir cette énergie, cette joie de vivre. Et puis, je l'ai réécouté justement, je me le suis racheté en CD il n'y a pas très longtemps, c'est incroyable, quoi. Ça tient la route, ce disque, c'est magnifique. Tout le monde joue monstrueusement bien. Et Parker est vraiment, vraiment... Là, pour le coup, c'est intéressant d'ailleurs de voir, par opposition avec Dizzy, parce qu'ils étaient absolument géniaux tous les deux, mais la construction des solos de Parker me semble vraiment être beaucoup plus intelligente, quoi, et plus aboutie, quoi. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce disque là c'est étonnamment, quand on pense au bebop, on pense à une musique très rentre dedans, très... et là il y a beaucoup beaucoup de nuances, beaucoup d'air, comme tu dis, beaucoup de respiration, et c'est une musique vraiment profondément entendue et vivante, quoi. C'est vraiment génial. Thank you.